docteur Mathieu de Stampa, qui est praticien hospitalier gériatre à l'hôpital de jour du centre gérontologique départemental du 13. Du domicile à l'EHPAD, comment aborder cette difficile décision? Grande question, je ne sais pas comment vous allez faire pour y répondre en 10 minutes.
Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci pour cette invitation. Donc, moi, je suis médecin de santé publique donc, et gériatre et je travaille dans un hôpital de jour. J'y reviendrai donc à la fin, donc dans un grand centre gérontologique là, sur la ville de Marseille. Alors, donc, j'ai gardé vraiment l'intitulé de la question parce que c'est vraiment une question extrêmement vaste qui touche finalement comment on va pouvoir essayer de répondre à des situations qui sont extrêmement diverses et souvent dans un contexte de pénurie professionnelle comme vous avez pu peut-être identifier. Alors, je vais juste recontextualiser sur la question donc, des EHPAD, donc, qui sont les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Alors, j'ai repris donc, quelques chiffres. Donc, on sait qu'en France, actuellement, on a à peu près 750 ou 730 personnes qui vivent en établissement donc, dit collectif. Et quand on regarde ce chiffre-là, c'est principalement en EHPAD. Donc, c'est à peu près donc, 80% en EHPAD, 15% dans des foyers logements. Alors, maintenant, on n'appelle plus ça des foyers logements, on appelle ça des résidences autonomie. Et puis 5% dans des USLD qu'on appelle des unités de soins de longue durée. Juste au-dessus, vous avez donc trois temps, 2007, 2011, 2015. C'est juste pour vous dire que l'augmentation, finalement, il y a de plus en plus d'EHPAD qui se sont développés donc, sur le territoire français. Et il y a un peu moins en vert, donc de foyers logements. Et en bleu au-dessus, donc il y a moins d'unités de soins de longue durée, en sachant que les unités de soins de longue durée, ce sont des unités hospitalière. Alors, lorsque l'on regarde donc cette proportion de personnes qui vivent en collectivité, ça correspond finalement à 10% des personnes de plus de 75 ans et avec l'avance en âge, assez normalement, donc on a à peu près 30% des personnes de plus de 90 ans. Alors, lorsque l'on regarde donc les EHPAD, on a grosso modo deux types d'EHPAD. On a les EHPAD dites privées et les EHPAD publiques. Grosso modo, c'est 50-50. Dans les EHPAD
privé.
Ça dépend des régions, mais je pensais que finalement il y avait des différences un peu plus importantes. Mais grosso modo, on a à peu près donc 50,8 et 49,2. Alors, dans les EHPAD privés, donc, c'est principalement du non lucratif. Et dans les EHPAD publics, c'est surtout des EHPAD publics non hospitalières. Mais j'étais étonné par le chiffre qu'il y a quand même 21% des EHPAD publics qui sont au sein même d'un hôpital. Alors là, c'est juste à gauche, donc en marron, ce sont les hommes et en jaune, ce sont les femmes. Donc ce sont les résidents d'EHPAD. Donc assez classiquement, vu l'espérance de vie et l'augmentation et le fait qu'il y ait plus de femmes à partir d'un certain âge, donc on a davantage de femmes que d'hommes. Et lorsque l'on regarde donc la répartition par classe d'âge, on a à peu près l'âge moyen des résidents d'EHPAD, c'est autour de 88 ans. Le deuxième point, c'est par rapport, alors j'aime pas le terme de dépendance, mais c'est tout ce qui concerne les incapacités fonctionnelles. On voit à peu près que entre les GIR 1, GIR 4, GIR 1, c'est les personnes qui ont des incapacités fonctionnelles sévères, jusqu'à un peu moins sévères, donc c'est GIR 4. On voit à peu près qu'on a plus de 80% des personnes qui sont résidentes en EHPAD qui ont des incapacités fonctionnelles importantes. Et puis enfin, donc ça sort donc d'une étude de la DRES, donc de 2022. Il y a 25% des personnes qui ont des troubles cognitifs, alors sans avoir mis un diagnostic, mais qui ont des problèmes cognitifs qui ont été diagnostiqués. Ensuite, lorsqu'on regarde le parcours de ces personnes en EHPAD, lorsque l'on regarde les entrées en EHPAD, on voit que 50% des personnes qui rentrent en EHPAD viennent du domicile. On a 20% qui étaient dans une autre EHPAD et qui vont changer donc d'EHPAD. Et un chiffre qui m'a vraiment interpellé, on a 30% des personnes qui rentrent en EHPAD qui le sont après une hospitalisation. Voilà, ce qui me paraît énorme comparativement donc, à d'autres données donc, à l'étranger. À la fin, donc, les personnes restent en EHPAD à peu près donc, sur une durée à peu près de 3 ans. Principalement, donc, c'est des sorties donc, liées donc, à un décès, mais pas que. Il y a parfois des changements d'EHPAD et il peut y avoir des retours dans du domicile privé. Alors, donc, au-delà de tout ce qu'on a pu dire sur les scandales des EHPAD, je revenais un peu sur les grandes caractéristiques sur les 10 dernières années donc, des EHPAD en France. Alors, il y a manifestement donc, une grande, plus grande diversification de l'offre. Quand je dis diversification de l'offre, c'est-à-dire que les EHPAD ont mis en place des services d'accueil pour des personnes qui ont des troubles cognitifs. Donc, tout à l'heure, vous parliez, madame, des PASA, donc ce sont des pôles d'accueil de soins adaptés. Il y a des unités donc, d'hébergement renforcé qui sont normalement des unités où vous avez des professionnels formés et en nombre suffisant. Il y a à peu près 50% des EHPAD qui, aujourd'hui, donc, ont des unités donc, spécifiques. Et puis, il y a un développement, parce qu'on a vu quand même que les EHPAD, c'était un lieu où les personnes venaient souvent donc, à décéder en EHPAD. Il y a quand même un développement, puisqu'à peu près, il y a 75% des EHPAD actuellement qui ont mis en place donc, un volet soins palliatifs dans leur établissement. Et puis, le dernier point, sur lequel je ne pourrais pas complètement vous répondre, il y a un projet actuellement donc, d'EHPAD hors les murs, qui est un projet donc expérimental qui essaye donc que les EHPAD puissent s'ouvrir davantage vers leur environnement. Et on peut très bien imaginer qu'une personne âgée qui habite à proximité d'une EHPAD puisse aller prendre ses déjeuners ou puisse recevoir des EHPAD. Ça, c'est un projet pour l'instant qui est expérimental. Et il y a différents sites qui, pour l'instant, ont écrit leur propre projet, mais je ne pourrais pas vous donner donc de réponse vraiment là-dessus. Le deuxième point, ça c'est des études françaises mais aussi internationales, c'est que comparativement, une personne âgée avec des problématiques de santé, des troubles cognitifs égales, entre qui vit à domicile ou qui vit en EHPAD, celle qui vit en EHPAD sera moins hospitalisée ou passera moins aux urgences. Alors, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a un développement aujourd'hui de rapprochement d'équipes mobiles hospitalières qui vont en EHPAD. Il y a des dossiers de liaison de communication. Et puis, il y a quelque chose que les gens connaissent peut-être pas forcément, c'est qu'en France, on est le pays où on a le plus développé ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile comparativement à tous les pays dans le monde. Et aujourd'hui, lorsque vous êtes un résident d'EHPAD, lorsque vous voulez recevoir des soins un peu aigus donc dans votre résidence, enfin, dans votre, au sein même de l'EHPAD, vous pouvez bénéficier donc de l'intervention de l'HAD. Troisième point, il y a à ce jour, alors c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment et qu'on met souvent l'accent sur tous les scandales et difficultés donc, des EHPAD, il y a aujourd'hui, et c'est souvent porté par la Fondation de France, il y a des projets d'ouverture, d'inclusion, de tiers-lieux. Il y a des projets assez innovants autour des animations. Alors vous me direz que c'est peut-être pas suffisant, mais il y a quand même une tendance. Il y a aujourd'hui des équipes qui sont extrêmement dynamiques dans les EHPAD et qui essayent d'ouvrir l'EHPAD par rapport mettre en place donc des actions ou des activités donc assez pertinentes. Alors, lorsque l'on regarde, qu'est-ce que veut dire donc une entrée en EHPAD ? Une entrée en EHPAD, et ça j'ai repris donc un peu tout ce qui existe sur la littérature. C'est décrit très souvent comme un événement stressant pour la personne, avec des conséquences sur l'état psychologique. Le deuxième point, les personnes qui rentrent en EHPAD décrivent souvent une baisse de leur qualité de vie versus celle qu'elles avaient avant d'entrer. Et ensuite, il y a certains travaux qui montrent que la qualité de vie remonte un petit peu donc, à distance de l'entrée en EHPAD. Donc on voit quand même le fait de rentrer en EHPAD, c'est un changement, avec des conséquences qui peuvent être psychologiques et sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant. C'est là où il y a toute la question de la capacité d'adaptation. Donc il y a plusieurs travaux actuellement sur comment finalement essayer d'être le plus vigilant pour les professionnels d'EHPAD, pour toute personne qui rentre en EHPAD. Parce que c'est un moment extrêmement important pour les nouveaux résidents. Donc l'idée, c'est de pouvoir essayer de répondre un petit peu au mieux donc, et puis avoir des réponses assez spécifiques, individualisées. Voilà, donc là, il y a des travaux qui sont en cours par rapport à ça, qui essayent de mettre l'accent sur la qualité du service, les interactions sociales, la question des activités. Le point suivant, donc, ça, c'est des travaux qui sont assez récents, c'est la question de la résilience. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a des personnes âgés qui ont décidé de rentrer en EHPAD, pourquoi certaines et pas d'autres? Pourquoi il y en a certaines qui rentrent en EHPAD et pour lesquelles elles font face sans aucune difficulté? Bon, voilà, donc c'est toute la question du coping, de faire face à. Et donc c'est des travaux qui sont, même à des âges très élevés, même avec des troubles cognitifs, il y a des personnes pour lesquelles on a parfois des résultats donc assez positifs. Le dernier point, donc de la littérature, qui montre que finalement les entrées programmées sont mieux vécues que les entrées non programmées. C'est ce qui me paraît une évidence. Mais du coup, ça fait le lien avec les 30% d'entrées en EHPAD aujourd'hui qui sont a priori non programmées puisqu'elles viennent d'une sortie d'hospitalisation. Alors, les facteurs, qu'est-ce qui fait que je suis une personne qui va rentrer en EHPAD? Donc, il y a 5 grands types de facteurs donc, à risque ou qui sont liés donc, avec l'entrée en EHPAD. Ça, je ne vais pas vous faire découvrir des choses, mais c'est des choses que vous pouvez, j'imagine, pouvoir identifier. Donc, d'abord, c'est la question donc, des troubles cognitifs, hein, les maladies neurodégénératives ou autres, mais qui sont dites sévères. Il y a toute la question donc, de la dimension comportementale. Les troubles comportementaux font qu'il y a un moment, le maintien ou la vie à domicile devient compliqué. Il y a ensuite tout ce qui concerne les incapacités fonctionnelles, c'est-à-dire toutes les difficultés à réaliser les activités de base dans la vie quotidienne. Il y a aussi tout un chapitre aujourd'hui qui se dessine, c'est toute la question de la continence, les personnes qui deviennent incontinents. Ça nécessite donc d'un renforcement des aides à domicile et c'est souvent quelquefois l'argument pour rentrer donc en EHPAD. En fait, aussi le fait d'avoir été en EHPAD quelque temps avant, c'est aussi un argument pour dire que vous pouvez, enfin, le risque de rentrer en EHPAD est plus important. Et puis ensuite, il y a la place centrale de les dents. Il y a des moments où les dents n'est plus en capacité de faire face. Et voilà, ça fait partie donc des facteurs qui font que la personne va rentrer, la personne où sont les dents, hein, parce que parfois il y a les entrées donc en EHPAD donc en couple. Alors, un point important, j'essaie de regarder finalement dans la prise de décision. Bon, finalement, est-ce que la personne qui va rentrer en EHPAD a été associée donc à la prise de décision? Alors, il y a très peu de travaux universitaires là-dessus. J'ai retrouvé donc une étude en 2007 en France. On voit que 40% des personnes qui rentrent en EHPAD ont été associées à la décision d'entrer en EHPAD. Et lorsqu'on regarde les facteurs qui sont liés à la non-prise de décision, c'est que finalement, plus vous avez un haut niveau de soins, donc j'imagine que plus vous avez des problématiques de santé importantes, moins vous êtes associé. Plus vous avez une perte d'autonomie fonctionnelle, moins vous êtes associé. Plus vous êtes jeune, moins vous êtes associé versus les plus âgés. Et un résultat, enfin pas intéressant, mais le fait d'être marié, vous êtes moins associé que lorsque vous êtes seul ou célibataire. Les deux points suivants, c'est les approches que nos collègues du nord de l'Europe et des anglo-saxons ont développées de plus en plus, c'est-à-dire que finalement le niveau de la maîtrise de la personne dans la décision, donc c'est ce que j'abordais précédemment, mais à partir de la question, il s'agit du degré d'implication de la personne dans la décision et de son degré d'adhésion. Et ça, c'est posé dans beaucoup de nursing homes, d'EHPAD donc à l'étranger, surtout dans les pays donc nord-européens. Je ne sais pas si c'est des questions qu'on pose, nous, dans nos EHPAD. Deuxième question, le potentiel de sortie. Il s'agit des possibilités que la personne puisse quitter l'établissement pour un logement indépendant, quel qu'il soit. Est-ce que c'est quelque chose que l'on se pose, enfin, ou qu'on pose à nos résidents d'EHPAD? Donc, c'était pour vous donner un petit peu les tendances, mais comment on pourrait imaginer et ouvrir la question de l'EHPAD. Alors, une fois qu'on dit... Donc, je reviens sur les chiffres, parce que là, on a parlé des EHPAD. La question, c'était aussi la question du domicile. La question du domicile, donc, on voit, pour revenir sur la proportion des personnes qui vivent en EHPAD, donc on voit que majoritairement, les choses se passent quand même à domicile, puisque 90% vivent, de plus de 75 ans vivent à domicile, et 65% des plus de 90 ans sont encore à la maison. Je crois que c'est uniquement chez les femmes centenaires qu'on a du 50-50. Voilà. Alors, on peut être critiquable sur l'EHPAD, mais on peut être aussi critique sur le domicile. Quand je dis on peut être critique sur le domicile, même s'il y a un nombre extrêmement important de services à mobiliser, mobilisables, services d'aide, services de soins, des services type spécialisés, donc vous avez l'accueil de jour, l'équipe spécialisée, l'équipe mobile, etc., etc., les réseaux. Vous avez des portes d'entrée dans notre système de santé qui sont multiples. Vous avez donc il y a eu les CLIC, les centres locaux d'information et de coordination, je crois qu'on appelle ça différemment sur le département d'ici. Vous avez donc les MAIA, vous avez les DAC, maintenant les dispositifs d'aide à la coordination. Tout ça pour vous dire que ce que disent les aidants, ce que disent les patients, ce que disent les usagers de notre système de santé, c'est qu'ils ont du mal à déambuler dans cette offre de services qui est complexe, même si elle est pléthorique, mais elle est complexe. Et lorsque on est une personne avec des troubles cognitifs, mais on n'a pas souvent que des troubles cognitifs, on va devoir mobiliser un certain nombre de personnes ou d'aidants professionnels, non professionnels à domicile. Ça nécessite du temps, de la coordination et de l'expertise. Et de l'argent. Voilà. Bon, ce qui veut dire que le domicile n'est pas si simple que ça. Alors, du coup, on revient à la question comment aborder le passage de l'un à l'autre. Bon, j'ai déjà vous dire que je n'ai pas de réponse toute faite, ni de recette magique. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut, je pense, qui me paraissent importantes. Donc, on pourra remettre ça dans le débat. Je crois qu'il faut qu'on arrête d'opposer la vie en institution et la vie à domicile. Je pense qu'il faut vraiment construire des passerelles. Et il y a des moments, il y a aussi des allers-retours à construire. Le deuxième point, c'est avant tout un projet de vie. Quand je dis c'est un projet de vie, parce que c'est un projet de vie où la personne doit être participante. Comme on voit, elle n'est pas toujours participante, lorsqu'elle peut. Hein. Il faut que les aidants soient aussi participants. Quand je dis les aidants, c'est parfois des aidants assez larges. Il y a des aidants proches, mais aussi donc les aidants familiaux et les amis, et les aidants amicaux. Le point suivant, c'est qu'on est dans une maladie évolutive. Aborder cette question, il faut qu'on l'inscrive dans le temps et dans le temps long. Parce qu'il y a besoin donc d'un cheminement pour arriver finalement à trouver au final la bonne et prendre la bonne décision. Et puis enfin, on est dans des situations où toutes les personnes, j'ai longtemps travaillé aux urgences, j'ai longtemps travaillé dans le service de gériatrie, finalement la réalité elle est complexe. Elle est complexe, c'est-à-dire qu'il y a des problématiques médico-psychosociales. Et lorsque vous avez des situations avec des problématiques médico-psychosociales, il faut être en capacité, soignant, aidant, de pouvoir essayer d'avoir une vision de la réalité, de comment ça se passe. Et non pas se limiter uniquement sur la mémoire ou les fonctions cognitives. Donc là, c'est une démarche qui a largement qui est utilisée dans 35 pays, qui s'appelle donc la démarche Inter-Rail. Grosso modo, c'est vous dire, donc tous les ronds, ce sont toutes les. L'idée, c'est qu'il y a, un lien entre toutes les composantes de la santé, l'environnement, les aidants, et tout est interrelié. Vous bougez quelque chose. Tout à l'heure, on parlait de l'humeur. Forcément, vous bougez l'humeur. Vous allez bouger le cognitif, vous allez bouger le fonctionnel, vous allez bouger le nutritionnel, tout est interrelié. Et l'idée, c'est qu'il faut absolument qu'on ait une vision exhaustive du fonctionnement de cette personne. Et cette démarche d'évaluation donc, est tout à fait donc, adaptée pour nous aider, nous soignants, donc, à approcher donc, de cette réalité.
Merci. Pour conclure.
Alors, pour conclure, ça va très vite parce que je travaille dans un hôpital gériatrique. Je ne dis pas que c'est l'hôpital de jour gériatrique, mais il faut qu'on ait ce temps de l'évaluation. Il faut qu'on ait ce temps de l'échange avec l'aidant, avec le patient, et qu'on ait une approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire que si on n'a pas, si moi, il y a uniquement mes yeux de gériatre dans l'évaluation, ça ne sera pas suffisant. Et c'est pourquoi donc, l'hôpital de jour, pour moi, est un bon lieu, parce que vous avez l'assistante sociale qui va intervenir, vous avez la psychologue qui va intervenir, vous avez la kiné qui va intervenir, vous avez l'infirmière qui va intervenir, et à des temps différents dans une journée. Et on sait qu'à la fin, je ne dis pas qu'on va avoir une vision complètement exhaustive des choses, mais on va pouvoir approcher de la réalité, et c'est la seule condition pour pouvoir ensuite mettre en place des services qui seront acceptés et adaptés. Et pour finir, donc, l'idée, c'est aussi d'avoir un suivi dans le temps. Voilà, puis après les conclusions, je crois que je revenais à peu près sur ce que je disais. Merci.
Merci, merci infiniment. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante et qui, je pense, suscite beaucoup de questions, dont une qui m'est parvenue. Le temps que le micro vous arrive, je vais la lui poser. Par rapport à ce que vous évoquiez, effectivement, des patients de plus en plus âgés en EHPAD, de plus en plus en perte d'autonomie, Evelyne dans la salle pose la question que concerne sa maman. Elle peut plus, elle a des graves problèmes de déglutition. L'EHPAD n'est plus approprié, insuffisamment médiqué. Quelle solution quand malheureusement l'état de santé, c'est la grande question de la médicalisation des EHPAD, le sont-elles suffisamment et quid des personnes qui sont malheureusement dans une situation où elles peuvent même plus se nourrir?
Alors, il y a une grande diversité donc des EHPAD, il y a des EHPAD qui sont plus médicalisés que d'autres, mais il y a des EHPAD où vous n'avez même pas une infirmière donc la nuit, enfin beaucoup d'EHPAD n'ont pas d'infirmière la nuit, et savoir qu'on a une diminution des unités de soins de longue durée depuis une vingtaine d'années qui ont fermé pour partie d'entre elles pour transférer donc les résidents vers les EHPAD. C'est-à-dire qu'on a fermé des unités de soins de longue durée où il y a un ratio de professionnels plus important qui prend en charge des situations plus complexes. On les a fermées pour transférer les patients vers des EHPAD. Ce qui veut dire, c'est que depuis une dizaine, vingtaine d'années, les EHPAD ont pris en charge des patients complexes.
On a fermé des lits d'hôpitaux pour...
Des lits d'unités de soins de longue durée. On ne les a pas tous fermés, mais on a la fermée en partie.
Alors que c'était des patients qui étaient de plus en plus dépendants.
Parce qu'en fait, l'idée à l'époque de nos tutelles, c'était de dire finalement, on va développer, donc on va transférer ces situations donc, de patients âgés des unités de soins de longue durée vers les EHPAD, parce que les EHPAD seraient en capacité de... Ce qui n'est pas le cas. Je ne veux pas mettre le doigt sur tous les EHPAD, mais il y a des EHPAD qui seraient en capacité d'eux. Mais si l'exemple de troubles de la déglutition, c'est-à-dire lorsqu'il y a une charge en soins vraiment importante, il y a besoin d'un accompagnement, et si dans l'EHPAD en question, il n'y a pas suffisamment de professionnels pour répondre à ces besoins-là, il y a un moment où ces personnes, je pense, nécessitent davantage une prise en charge en unité de soins de longue durée, parce que les unités de soins de longue durée sont des unités donc hospitalières et dans lesquelles, normalement, elles sont censées pouvoir répondre au mieux aux situations les plus complexes.
Vous avez de la place ?
Il y a de la place dans les unités de soins de longue durée, oui.
Là, d'accord. OK, donc ce type de personne peut retrouver... elle n'a pas l'air complètement d'accord, madame, mais on va vous attendiez le micro. Question courte, s'il vous plaît, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de retard.
Il va y avoir deux questions courtes que j'ai notées. Vous parliez tout à l'heure, donc déjà pour la déglutition, je vous le confirme, ma maman n'a plus de dents, donc elle mange mâchée quand elle peut manger, mais personne ne s'en occupe et elle n'ira jamais en hospitalisation. Pour l'hospitalisation, quand vous parliez d'hospitalisation en gériatrie, les EHPAD n'envoient pas les patients en hospitalisation, sauf s'ils tombent. Et s'ils tombent, ils s'en vont tout seuls. Moi, ma maman est restée 3 heures sur un brancard à l'Aveyron attaché parce qu'il n'y avait personne. Donc, je ne comprends pas. Et le retour à la maison pour des gens qui sont en EHPAD et qui ont cette maladie d'Alzheimer ou des maladies dégénérescentes, je n'en connais pas non plus. Depuis 10 ans, je n'en ai jamais vu. Et des gens qui adhèrent, je vous laisse, des gens qui adhèrent, ça fait 10 ans, donc ça fait longtemps, des gens qui adhèrent à rentrer en EHPAD et qui s'y font, moi, j'en ai vu beaucoup mourir très, très vite. Donc, à la base, vous dites que, OK, ils rentrent avec une adhésion, ils sont genre contents, ils vont, voilà. Et puis, au final, ils se dégradent très, très vite parce qu'il n'y a rien en unité Alzheimer. Et c'est une unité publique, là où est ma maman.
Là, vous vous basez sur des enquêtes.
Pardon, que c'était beaucoup de littérature bienveillante, mais que ce ne reflète absolument pas la réalité de la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle.
Alors, plusieurs choses. La question, quand je parlais des unités de soins de longue durée, c'est du soin de longue durée, c'est des résidences. Ce n'est pas de ça se passe dans un hôpital, mais ce n'est pas une hospitalisation comme on l'entend. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'hôpital de jour, les personnes viennent le matin, repartent en fin d'après-midi, et on travaille beaucoup avec des EHPAD qui nous envoient des résidents d'EHPAD pour faire un bilan gériatrique complet. Donc on travaille avec ça. L'autre point... On a vu, là j'ai vu les quelques données que je vous ai montrées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rentre en EHPAD très, très âgée.
De plus en plus âgée.
Oui. De plus en plus âgée. Non, bah, l'entrée se fait à 88 ans. Mais il y a des pays, imaginez-vous, on a créé les foyers logements, c'était la génération de mes grands-parents. On prenait notre retraite et on rentrait en foyer logement. Voilà, parce qu'on voulait rentrer en foyer logement. Aujourd'hui, la génération de mes parents, aujourd'hui, vous leur dites d'aller en EHPAD, ils commencent à y réfléchir, mais ils sont beaucoup moins proactifs pour rentrer en EHPAD.
Hein, parce qu'on est... ils n'ont pas envie.
Ils n'ont pas envie, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce... On n'est plus du tout dans les mêmes générations d'il y a 20 ou 40 ans où on était davantage, on voulait... Parce que d'abord, les femmes vivaient souvent seules, étaient veuves plus tôt. Et puis, on est quand même sur une espérance de vie qui augmente de façon considérable. Tout à l'heure, ce que l'on disait sur les maladies neurodégénératives, parce qu'on ne s'attendait pas à avoir une espérance de vie aujourd'hui aussi longue. Aussi longue. Hein, et que plus vous êtes âgé, plus vous avez forcément des troubles cognitifs. Bon, là, je ferme la parenthèse, mais je revenais sur la question de aujourd'hui. On rentre en EHPAD quasiment au moment où on a beaucoup de problèmes de santé, on est souvent très âgé, on a des troubles cognitifs et on a souvent des maladies multiples. Donc, ce qui
explique... vous, une des réponses, ce serait d'essayer de rentrer plus tôt.
Je ne dis pas du tout. Je réponds à madame sur le fait que les gens meurent assez vite quand ils rentrent en EHPAD. Mais en fait, on s'est aperçu sur les 10, 15, 20 dernières années, ce n'est plus les mêmes qui rentrent en EHPAD. Les gens qui rentrent en EHPAD aujourd'hui, ce sont des gens malades, très malades, et beaucoup rentrent en EHPAD dans des situations dites palliatives, sur des temps souvent un peu longs, et c'est pourquoi, donc, ils ne restent pas forcément très longtemps.
Oui, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas que vous militiez, vous, les gériatres, pour qu'il y ait beaucoup plus de médecins, beaucoup plus de soignants, si ça devient de vrais hôpitaux, d'une certaine manière, gériatrique?
Alors, par rapport... Là, le militer, d'abord, ce qu'on regarde...
Militer, en tout cas, faire du lobbying.
Du lobbying. Déjà, il faut qu'on ait davantage de soignants dans tous les services hospitaliers, tels qu'ils soient. La deuxième chose... Non, mais je pense qu'il faut pas se cacher la face, c'est que on a peu, moi j'ai peu de collègues qui veulent travailler en gériatrie. Non mais ça renvoie, mais moi j'ai beaucoup d'amis qui me disent mais pourquoi tu travailles en gériatrie? Alors que ça m'a toujours plu, mais ce qui veut dire c'est que le vieillissement fait peur, on veut plus regarder le vieillissement en face, voilà. Donc le vieillissement, les pertes de capacité fonctionnelle, etc., tout ça, ça fait peur. La maladie fait peur. Donc, après, il faut donner envie aux soignants et après, il faut donner aussi envie aux usagers de rentrer dans des structures. Mais ce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir, à repenser sur c'est quoi, finalement, l'EHPAD de demain dans laquelle on aimerait tous aller. Et tout à l'heure, j'essayais de peut-être mettre l'accent sur le fait qu'il y ait des allers-retours. On pourrait très bien imaginer, comme ça existe par exemple dans des pays d'Europe du Nord, où vous allez en EHPAD quelques semaines, vous rentrez chez vous. Il y a des moments, alors on commence à le développer ici sur des séjours temporaires, mais ce n'est pas vraiment fait de façon très, très, très fréquente.
Merci pour votre patience, madame. Une question, on s'enflamme.
Oui, bonjour. Dans les critères pour la rentrée en EHPAD, moi j'en aurais rajouté au moins un, c'est que le maintien à domicile est de plus en plus difficile parce qu'on ne retrouve pas de personnel. Donc, et que pour rentrer en EHPAD, il faut être GIR 4. Mon père, il est GIR 5, il est en train de basculer petit à petit, mais pour autant c'était impossible de le maintenir à domicile parce que il aurait fallu quelqu'un les repas, le week-end, et du coup c'était impossible de trouver du personnel. Et les EHPAD m'ont le refusé puisqu'il n'est pas GIR4. Donc on l'a mis en résidence d'autonomie, il était demandeur d'aller dans une structure. Et c'est un peu dommage que je ne trouve pas, j'ai entendu le replay de la conférence de Paris, c'est pareil, c'est un peu dommage qu'on ne parle pas de cette étape peut-être intermédiaire qui est le passage en résidence autonomie, qui permet quand même d'encadrer, d'avoir une structure plus petite que la personne.
C'est d'ailleurs dans le prolongement de ce que vous dites, de plus en plus tard.
Par contre, la deuxième remarque, c'était juste, tous vos services de soins, vous dites qu'il y a une offre pléthorique pour trouver du soutien, etc. Oui, quand on est en grande ville, Mon père, il est à Saint-Rémy, mais je galère pour trouver des orthophonistes. Je galère pour avoir un accueil de jour. Personne ne me répond quand j'appelle le CCAS. On me dit, bah non, ce n'est pas le village, donc voyez directement. Le médecin, il dit non, c'est à vous de vous en occuper. C'est bien quand on est dans une grande ville, quand on est en campagne, c'est très, très difficile d'avoir ce service-là.
Merci, madame.
Alors, pour vous répondre sur le dépôt, je suis tout à fait d'accord par rapport à l'hétérogénéité de l'offre. Même en tant que médecin traitant, il y a des médecins traitants que vous dépassez certaines zones, c'est difficile d'avoir même un médecin traitant pour suivre les personnes. Je reviens juste sur la question de la grille. Pour moi, la grille Agir n'a pas de sens. D'abord, elle n'est pas validée. Et le fait de faire, de fragmenter sous prétexte que vous êtes GIR au-dessus ou GIR en dessous, vous pouvez ou vous ne pouvez pas rentrer. Pour moi, l'EHPAD qui serait la plus bénéfique, c'est une EHPAD où il y a une mixité de personnes à l'intérieur, c'est-à-dire des personnes qui soient totalement autonomes, d'autres un peu moins. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même dans tous les projets expérimentaux, on essaye d'ouvrir l'EHPAD vers l'extérieur et de réserver l'EHPAD uniquement pour une catégorie de résidents. Ça ne me paraît pas tout à fait logique.
Il n'y a pas d'interdiction. Oui.
Ouais.
Mais ils n'ont pas
c'est un choix d'EHPAD, mais il y a quand même beaucoup d'EHPAD qui prennent des résidents. Je ne dis pas que c'est, mais il y a quand même souvent une concentration.
Mais s'ils prennent des GIR 5, ils n'ont pas d'aide, c'est ça. Il n'y a pas d'aide.
Non, il n'y a pas d'aide financière du département.
C'est aussi peu intéressant d'avoir des GIR 5. Excusez-moi, j'ai l'esprit mal placé. Madame.
Bonjour et merci pour votre intervention. Voilà, mon papa a 78 ans, il est diagnostiqué depuis 3 ans, vraiment. Il est en très bonne forme physique, mais il décline de jour en jour. Alors, il est à domicile avec ma maman qui l'aide et qui va avoir 80 ans, qui est dans une forme de déni que je trouve en tant qu'enfant un peu dangereuse. Moi, je suis peut-être un peu trop alarmiste, mais bon... Et en fait, je fais plein de choses pour... j'ai pris un orthophoniste, il va chez un kiné. Il y a une dame qui vient 2 fois par semaine pour le stimuler, mais bon, à la maison, mais il dort. Et j'ai essayé l'accueil de jour. Et là, j'ai eu on en a parlé, sauf que comme il oublie ce que je viens de dire, bah, il oublie que je lui en ai déjà parlé. Et que j'ai essayé de préparer ça avec lui. Et l'accueil de jour, ça a été un refus incroyable. Enfin, il s'est énervé en disant que ce n'était pas un vieux, qu'il n'avait rien à faire là-bas. Alors que je pense que pour que son déclin soit un peu moins rapide, il faudrait le stimuler. Le stimuler beaucoup. Et je n'arrive pas à le faire. Et je ne sais pas comment lui faire accepter, comment l'aider, comment... quand il se rend compte, parce qu'il a quand même des moments de lucidité, comment le rassurer. Je ne suis pas formée pour ça. Et ma maman, c'est très mécanique. Elle est très forte, mais j'ai peur qu'un jour, elle tombe.
Grosse question des aidants. Et... Oui, alors, si vous pouvez... un message à l'attention.
Un message. Déjà, vous dire que, finalement, la question du déni, moi, il peut y avoir un peu de déni, mais c'est aussi une façon de résister, de survivre. Et moi, alors là, je l'accepte totalement. Je me dis, je ne sais pas, je serais avec une personne qui aurait la maladie ou moi, je l'aurais. Il y a un moment où on n'a pas forcément envie de voir les choses en face. Et heureusement qu'on a cette façon du déni pour pouvoir essayer de survivre par rapport à une maladie qui est souvent traumatisante parce que c'est une perte d'identité. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Après, vous avez vos parents qui sont en couple. Et il y a aussi une vie de couple que vous ne connaissez pas. Voilà. Et moi, je suis souvent extrêmement surpris et touché par les couples que je peux voir à la consultation. Même avec des personnes avec des troubles très sévères, il y a quand même des choses encore qui passent, il y a le toucher qui passe. Et je pense qu'il y a l'interrelation fait que c'est quand même une force. Enfin, ils sont à deux, c'est déjà beaucoup. Ils se sont construits toute leur vie à deux. Parfois, c'est bien compliqué, mais je veux dire, ils sont quand même deux par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'il y a l'orthophoniste, le kiné. C'est vrai que ce qu'on dit toujours, c'est tout ce qui est interaction sociale et l'activité physique. Il ne faut jamais oublier l'activité physique. C'est-à-dire que dans toutes les études, le fait de marcher, d'avoir une activité au moins quotidienne, ça permet de ralentir, voire de stabiliser un peu les choses. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Après, la question de... C'est vrai que, bon, ils sont deux, ils ont cette interrelation. Après, nous, on essaie toujours de voir un peu sur toutes les, comment dire, ses hobbies, ses passions, les choses qu'il a pu aimer un temps. Il y en a, je sais que là, l'idée, on travaille sur un projet autour du sport, le sport, parce que c'est vrai qu'il y en a qui adoraient le foot, les boules, enfin, il y a des trucs. Et c'est vrai qu'il manque tout ça, en fait, de toutes ces activités sportives, physiques, où les gens pourraient se retrouver. Je sais que ma collègue avec qui je travaille donc, a mis en place un truc super, enfin, vraiment très intéressant autour de la culture. Ça s'appelle l'Institut de la maladie d'Alzheimer Lima. Et en fait, ils ont beaucoup de, ils vont faire des visites donc de musées, de théâtre. Il y a vraiment, et c'est le couple aidant-aidé. Et c'est aussi d'arrêter de voir le couple aidant-aidé comme à travers la maladie. Voilà. C'est de repositionner. Voilà. Donc, pour répondre par rapport à l'accueil de jour, il y a des situations où parfois certains ne veulent pas un moment, mais ça ne veut pas dire que dans quelques mois, ça alors, pourrait être aussi une perspective.
Merci infiniment. On pourrait prolonger très longtemps ces échanges. Monsieur